14h10 à Paris.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
Les cloches de Westminster commencent à sonner à toute volée. Dans quelques secondes, apparaîtront aux yeux de la foule londonienne leurs altesses royales, la duchesse d'Édimbourg et le duc d'Édimbourg qui, hier encore, était la princesse Elisabeth et le lieutenant Philip Mountbatten de la marine royale. Et voici le jeune couple.
Après leur mariage le 20 novembre 1947, Philippe et Elisabeth quittent l'Angleterre pour Malte, une petite île de la Méditerranée où le prince Philippe est appelé à prendre ses fonctions d'officier dans la marine. Malte est en effet colonisée par l'Empire britannique depuis le tout début du 19e siècle. Et d'ailleurs, quelques mois plus tôt, la princesse Elisabeth s'adressait à tous les peuples de l'Empire et du Commonwealth depuis l'Afrique du Sud, autre colonie devenue souveraine et dominée par les Blancs. Pour son 21e anniversaire, la future reine célébrait alors la grandeur de la famille impériale en digne héritière de son arrière-arrière-grand-mère, Victoria.
Je déclare devant vous tous que ma vie entière, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à vous servir et à servir la grande famille de l'Empire à laquelle nous appartenons tous. Mais je n'aurai pas la force d'accomplir seule cette résolution si vous n'y participez pas avec moi, comme je vous y invite maintenant.
De l'Empire au Commonwealth, quelle relation la couronne britannique entretient avec ses sujets dans le monde entier? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec notre invité Pierre Singaravelu, spécialiste de l'histoire de la colonisation et directeur du Centre d'histoire de l'Asie contemporaine et des publications de la Sorbonne. Bonjour Pierre Singaravelu.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans cette relation entre la couronne britannique et ses sujets issus de l'Empire et de la colonisation?
Alors fasciné, le mot est un peu fort, mais ce qui peut m'intéresser, eh bien, c'est sans doute que la couronne a su perpétuer une image, une autorité au sein de cet empire, puis ce qu'on a appelé le monde britannique. Et la couronne, à travers ses différents souverains, rois, reines, a su incarner au fond l'unité de cet empire, de ce monde britannique, de ce Commonwealth jusqu'à nos jours.
Avant la décolonisation, Pierre Singaravelu, qu'est-ce que représente au fond l'Empire à l'échelle du monde ?
C'est tout simplement la plus grande formation impériale au monde. C'est-à-dire c'est en gros un cinquième des terres émergées, un quart de la population mondiale qui est en théorie rassemblée dans cet empire. Alors il se trouve qu'en réalité, c'est un empire qui est assez peu cohérent, qui est très composite.
À la différence de la France, on n'a pas un ensemble comparable par exemple à l'AOF, Afrique occidentale française, ou bien encore à l'AEF, l'Afrique équatoriale française, pour prendre l'exemple du continent africain.
Alors il n'y a pas d'équivalent. Dans l'Afrique anglophone, l'Afrique britannique, on retrouve surtout des colonies de peuplement en Afrique australe et puis des colonies en Afrique orientale qui sont dispersées donc à l'est du continent. Et pour le reste, l'Empire est dispersé sur les cinq continents avec plus généralement des colonies de peuplement blanc qu'on appelle les White Colonies qui vont devenir des Dominions à partir de la fin du 19e siècle, donc Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique australe bien entendu et Australie, et puis des protectorats. Donc qui possède un statut particulier, c'est le cas notamment des sultanats en Malaisie, c'est-à-dire que les Britanniques ont maintenu sur place les souverains locaux et donc s'appuient sur les structures politiques locales pour dominer ces territoires. Et puis, il existe ce qu'on appelle les Crown Colonies, les colonies de la couronne. C'est le cas, par exemple, de Hong Kong à partir de 1842, des Fidji à partir des années 1870. C'est-à-dire que ce sont des colonies classiques qui dépendent directement du ministère des colonies à Londres, le Colonial Office.
Et au fond, Pierre Singer-Avelou, ce qui pourrait réunir cet ensemble extrêmement composite, beaucoup plus important que l'Empire colonial français, c'est la figure de la reine. Et à l'époque, ce serait la reine Victoria, puisqu'elle a régné de 1837 jusqu'à sa mort le 22 janvier 1901.
Précisément, hein, cette centaine d'entités politico-administratives différentes ont très peu de points communs. Et l'un des seuls ciments de l'Empire, précisément au 19e et au 20e siècle, eh bien, c'est la figure du souverain, en l'occurrence de la reine Victoria, une souveraine qui a eu un rôle si important qu'elle a même donné son nom au 19e siècle, hein, le siècle victorien, et puis que son nom a empli littéralement le monde entier à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, puisqu'elle donne son nom à des lacs, à des régions, à des villes, à des bâtiments, etc. Que son profil et son visage peuplent les timbres, les médailles, les pièces du monde entier, qu'elle inspire même des sculptures Yoruba, hein, que les femmes criots en Sierra Leone, par exemple, vont commander, acheter à la fin du 19e siècle pour décorer leur intérieur. Ce qui est très intéressant, c'est parce que ces sculptures en forme de Victoria, on a longtemps pensé qu'à la fin du 19e siècle, elles étaient faites pour les touristes anglais ou français. Pas du tout. En réalité, elles révèlent surtout une forme d'attachement et d'appropriation de la bourgeoisie africaine et notamment de ses femmes criots justement à l'égard de la figure de Victoria et donc de la culture britannique.
Alors après le long règne de la reine Victoria, le court règne de son fils Édouard VII, puis celui de George V, d'Édouard VIII et enfin de George VI, c'est au tour de la princesse Élisabeth de monter sur le trône après le décès du roi. Élisabeth était alors à Nairobi au Kenya. Arrivée princesse, elle repartait à Londres pour être sacrée reine le 2 juin 1953.
Is your majesty willing to take the oath?
I am willing.
J'y consens, a répondu la reine. L'archevêque poursuit, voulez-vous promettre de jurer de gouverner selon leurs lois et coutumes respectives les peuples du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de l'Union, de l'Afrique du Sud, du Pakistan et de Ceylan, ainsi que les peuples de vos autres possessions et de tous les territoires qui s'y rattachent.
Élisabeth II est couronnée.
Ce 2 juin 1953, la princesse Élisabeth devient la reine Élisabeth II d'Angleterre. C'est la première fois qu'un programme est retransmis en direct dans plusieurs pays européens. Et les images prennent ensuite l'avion pour être diffusées au Canada et de là vers les États-Unis, qui découvrent le conte de fées de cette jeune reine de 27 ans. Sur sa robe de satin blanc, Élisabeth a exigé que soient brodés tous les symboles du Commonwealth qui regroupent les États associés à la couronne. La rose pour l'Angleterre, le chardon pour l'Écosse, la feuille d'érable canadienne, les fleurs de lotus d'Inde et de Ceylan, et sur un côté, très discrètement, les couturières brodent un minuscule trèfle à quatre feuilles comme porte-bonheur.
Et voici la reine qui apparaît, vêtue d'un manteau d'hermine blanc. J'aperçois la traîne de velours rouge sombre, elle pénètre maintenant à l'intérieur et c'est la fanfare.
Pierre Singer-Avelou, comment pourriez-vous définir cette relation très particulière entre la reine et ses sujets? C'est quand même une relation assez ambiguë.
Cette relation à la reine est, comme vous dites, complexe dans la mesure où c'est une figure lointaine, même si elle tente à la manière des souverains du Moyen-Âge et de l'époque moderne, hein, de visiter son royaume et en l'occurrence son empire, et puis ensuite du Commonwealth dans le cas d'Elisabeth II. La reine entend jouer un rôle bienveillant, et c'est toute l'intelligence de Victoria et de son époux Albert, qui est disparu rapidement, mais qui lui aussi était d'accord sur cette stratégie, de de surplomb, c'est-à-dire de ne pas s'engager directement dans les affaires politiques. Et c'est cette distance qui fait qu'elle, Victoria, puis ensuite Elisabeth II, ont su, d'une certaine façon, eh bien, préserver et accroître leur autorité morale, disons, au sein de l'Empire.
Vous l'avez rappelé, Pierre Singer-Avelou, ce qui caractérise l'Empire britannique, c'est sa grande diversité. C'est pourquoi nous avons choisi, avec notre correspondante en Angleterre, Marie Billon, de vous proposer plusieurs portraits d'hommes et de femmes qui incarnent cette longue histoire de l'Empire au Commonwealth, et notamment des acteurs de l'administration coloniale. Et ils forment, vous allez le voir, de véritables dynasties. Écoutez le témoignage de Quentin Peel. Il évoque l'engagement des hommes de sa famille dans l'administration coloniale.
Alors, je m'appelle Quentin Peel, je suis journaliste, profession, retraite maintenant, mais je suis le fils d'une famille qui a travaillé pendant des générations dans l'Empire. Mais je crois que j'avais l'esprit trop indépendant pour devenir fonctionnaire de l'État. Je ne voulais jamais devenir diplomate ou quelque chose comme ça. Et j'ai travaillé en Afrique du Sud, en Zimbabwe, en Nigeria, où on voit beaucoup de problèmes qui existent toujours, justement que nous n'avons jamais réglés dans la période de l'Empire. Vous êtes chez moi, à Islington, ici, à Londres, le nord de Londres. Nous avons pas mal de choses dans la maison qui sont des souvenirs de l'Empire, si vous voulez, des portraits, des peintures, des meubles. Alors, justement ici, nous avons un portrait assez splendide de mon grand-père dans l'uniforme du gouverneur de Hong Kong. Il s'appelait William Peel. Alors, à la fin de sa vie, il était devenu Sir William Peel. Il est né à peu près 1870, d'une famille pas très importante. Mais justement, la profession, la carrière devant lui, pour réussir, c'était aller dans l'Empire pour travailler comme fonctionnaire des colonies. Et il y avait un système même de classe parmi ces fonctionnaires, c'est-à-dire les meilleurs fonctionnaires allaient aux Indes, deuxième rang c'était Malaisie et troisième c'était l'Afrique. Alors c'était justement un peu snob d'aller aux Indes. Alors il a commencé dans la bureaucratie de Malaisie, et comme jeune homme en 1895, il avait déjà une équipe de 100 personnes à peu près, alors c'est-à-dire la police, les interprètes et tout ça. Alors, un seul jeune homme britannique et toute une équipe de gens du pays. Et c'était le système justement de indirect rule, alors c'est-à-dire un gouvernement indirect. Les Britanniques n'avaient jamais beaucoup de gens sur la terre. Ils étaient les commandeurs, mais ils gouvernaient à travers les chefs du pays, ou les princes, les sultans, tout ça.
Votre grand-père était un homme convaincu par l'Empire et par les bienfaits de l'Empire.
Oui, c'est vrai, il était convaincu, comme mon père. C'était une famille qui s'est trouvée, qui s'est faite par l'Empire. Mon père, John Peel, lui, il était né en 1912, et je crois que vers 1934, il est allé au Malaisie pour son premier poste. Et je me souviens bien d'une histoire qu'il m'a racontée. Il est rentré, il est revenu en Angleterre pour ses vacances, et mon grand-père et mon père ont discuté alors ce qu'il allait faire pendant sa vie. Et à la fin, mon grand-père lui a dit « Mais tu ne crois pas que l'Empire va durer pour toujours ?» Et mon père, quand il me l'a raconté, il disait « Mais j'étais ahuri, j'étais choqué, parce que je croyais justement que ça allait durer. » Mais c'était l'ancien qui avait déjà su et déjà compris pendant les années 30 que c'était pas pour toujours.
« Quentin Peel, un petit-fils de fonctionnaire de l'Empire, fils de fonctionnaire de l'Empire, et lui-même journaliste, ancien correspondant dans plusieurs pays, notamment Afrique du Sud, Zimbabwe et Nigeria, où il a pu, selon ses mots, constater les problèmes causés par l'Empire et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Pierre Tsingaravelu, la société britannique contemporaine est extrêmement marquée par cette histoire impériale, justement à travers tout ce personnel de l'Empire et notamment cette administration indirecte, précise Quentin Peel.
Oui, ce témoignage est passionnant parce qu'il nous rappelle que l'Empire est peut-être d'abord et avant tout une carrière pour un certain nombre de Britanniques, et parfois avec des dynasties familiales comme celle-là. Alors ça concerne en premier lieu les élites britanniques, qui contrairement aux élites françaises, se sont au 19e et 20e siècle beaucoup investis dans l'entreprise coloniale et impériale. Il y a un ouvrage important de Richard Simons qui s'appelle Oxford and the Empire, et qui montre comment les meilleurs étudiants, issus de l'aristocratie, de la grande bourgeoisie, se destinaient pour beaucoup à l'Empire, à cette carrière coloniale qui est extrêmement prestigieuse. Et notre témoin en parle de façon très précise, puisqu'il explique qu'il existait même une hiérarchie dans les destinations, avec les Indes évidemment au sommet de la pyramide, et puis l'Afrique subsaharienne tout en bas. On retrouve exactement le même type de hiérarchie en France, avec l'Indochine, la perle de l'Empire, qui était très recherchée, ensuite le Maghreb, et puis pour les derniers au classement de l'école coloniale fondée en 1889, eh bien les postes en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Alors cette question de l'habitus colonial ou impérial britannique, elle a été résumée de façon très éloquente par André Siegfried, qui a publié en 1950 un ouvrage intitulé L'âme des peuples, où il compare les Français et les Britanniques. Et il explique qu'est-ce qu'un Français. Un Français, c'est un homme brillant. Deux Français, c'est de la conversation. Trois Français, c'est la pagaille. Et puis il explique qu'en comparaison, un Britannique, c'est un idiot. Deux Britanniques, c'est du sport. Qu'est-ce que trois Britanniques ? L'Empire. L'Empire. Donc cet habitus impérial britannique est fondamental pour comprendre ce qu'on appelle la Britishness, l'identité britannique. Cette identité britannique qui se forge bien souvent outre-mer, et c'est précisément outre-mer, en Inde, en Afrique, par exemple, que les Gallois, les Anglais, les Écossais se découvrent une même identité, une identité commune, précisément cette Britishness.
Écoutez justement la Britishness, ce sentiment d'appartenance particulier à l'identité britannique de la famille, de notre témoin, Quentin Peel.
Moi, je suis né en 1948 et à l'âge de 3 mois, je crois, je suis allé avec ma mère de Grande-Bretagne, j'étais né en Grande-Bretagne, aux îles Gilbert, comme ils s'appelaient en ce temps-là, mais aujourd'hui c'est Kiribati, tout au milieu de l'océan Pacifique. Nous sommes restés là-bas de 48 à 52. Alors, c'était, je crois, en 52, mon père s'est décidé de quitter le service colonial. Il était très frustré parce qu'il ne pouvait pas revoir ses enfants, mes sœurs, qui étaient toujours à l'école. Et aussi, on lui a offert, je crois, le prochain poste, c'était à Sainte-Hélène, ou bien à Grenade, aux îles Caraïbes. Et il s'est décidé, alors vraiment, s'il ne reste que des îles, c'est pas très intéressant. Alors, nous sommes tous rentrés en Angleterre, et mon père a cherché à trouver une autre carrière, une autre profession. Alors, la politique. Et mon père est devenu député conservateur en 1957. C'est justement l'année de la crise du canal de Suez. La Grande-Bretagne et la France ont essayé d'attaquer l'Égypte parce que le président Nasser voulait nationaliser le canal. Et ils ont raté parce que les Américains n'ont pas voulu les soutenir. Et c'est amusant parce que le premier discours important qu'il a fait en Parlement, c'était pour défendre ses copains, ses anciens copains, les fonctionnaires de l'Empire en Afrique, parce qu'ils avaient la guerre au Kenya. Et après, les autres parlementaires l'ont pris à côté et lui ont dit, je crois, John, que c'est trop tard pour l'Empire. Il faut trouver un autre sujet. C'est le passé. C'était la fin de l'Empire, effectivement.
Merci d'écouter La Marche du Monde au son des témoignages recueillis par Marie Billon, Quentin Peel, petit-fils de gouverneur, mais aussi Laure de Luce, administrateur au Kenya, ou encore Patricia Rosario, une chanteuse d'opéra d'origine indienne, née à Bombay. Nous les retrouvons toutes et tous dans quelques instants sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de La Marche du Monde sur RFI. De l'Empire au Commonwealth, nous revenons sur l'histoire des relations entre la reine et ses sujets. Suite à l'indépendance de l'Inde, le British Commonwealth devient en 1949 le Commonwealth des Nations. C'est le sens de l'histoire, affirmé par le Premier ministre conservateur Harold Macmillan dans son célèbre discours prononcé devant les deux chambres du Parlement d'Afrique du Sud. Nous sommes le 3 février 1960.
The wind of change is blowing through this continent. And whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact.
Le vent du changement souffle sur ce continent et que cela nous plaise ou non, cette montée de la conscience nationale est un fait politique et nous devons l'accepter et nos politiques nationales doivent en tenir compte. Ce sont les mots fameux de Harold Macmillan. Mais comment la reine vit ce changement ? Pierre Singaravelou, je vous pose la question et je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire de la colonisation et directeur du Centre d'histoire de l'Asie contemporaine et des publications de la Sorbonne.
Elisabeth, à partir donc de ce début des années 1950, s'adapte à l'évolution politique sans prendre position précisément dans les débats politiques de la décolonisation. Elle est elle-même la reine des 16 royaumes du Commonwealth, hein, de ces États indépendants qui partagent la même personne comme monarque, mais comme monarque constitutionnel. Et donc, se tenant à distance de ces débats politiques, voire politiciens, Elisabeth II assure toutes les obligations protocolaires, et c'est en son nom est ouverte la session parlementaire, que sont effectuées les visites officielles à l'étranger. Elle a effectué près de 300 visites dans 130 pays et reçu un nombre incalculable de chefs d'État.
Mais on ne peut réduire la reine au seul rôle de spectatrice, comme le montrent les différents témoignages recueillis par notre correspondante Marie Billon en Grande-Bretagne. Et tout d'abord, Sir Shridi Tramphal, plus simplement nommée Sir Sonny. Né en Guyane britannique en 1928, il a étudié le droit à Londres. Puis à l'indépendance, il participe à l'écriture de la constitution de son pays, avant d'en devenir le premier ministre des Affaires étrangères de 1972 à 1975. Il retourne ensuite au Royaume-Uni pour diriger le secrétariat général du Commonwealth.
J'ai été secrétaire général du Commonwealth pendant 15 ans, de 1975 à 1990. Mais les vrais pouvoirs politiques dans le Commonwealth restent entre les mains des chefs de gouvernement, les présidents et les premiers ministres des pays membres. Et il ne faut pas oublier l'influence que la reine peut exercer en tant que chef du Commonwealth. Donc on peut parler d'un triumvirat entre la reine, les chefs de gouvernement et le secrétaire général.
Le main event in my tenure as secretary general was Africa.
Le plus gros dossier de ma carrière de secrétaire général, c'était l'Afrique et surtout l'apartheid. Nelson Mandela, la liberté en Afrique du Sud. Et l'influence de la reine a été stupéfiante. Elle devait composer avec une chef de gouvernement à Londres qui était en décalage avec le reste du Commonwealth. Cette première ministre, bien sûr, c'était Margaret Thatcher. Tout le Commonwealth était contre l'apartheid, mais pas Madame Thatcher. Elle était opposée aux sanctions internationales. Et cela a placé la reine dans une position difficile. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avions une réunion à Londres en 1986 et nous devions prendre une décision quasi finale sur les sanctions. Elle ne pouvait pas entrer en conflit avec sa première ministre. Elle a donc utilisé son influence en tant que chef du Commonwealth pour fédérer les leaders. Et finalement, c'est nous qui l'avons emporté et nous avons une dette énorme envers la reine pour son rôle discret mais très efficace. Les leaders étaient impressionnés par la profondeur de ses connaissances sur leur pays. Elle entretenait avec eux des relations qui dépassaient le formel. Elle connaissait leur situation personnelle. Elle connaissait leurs épouses. Elle a su aller au-delà des impératifs de son devoir.
Au fond, la reine a le sens de l'histoire. Élisabeth reste une référence et un symbole d'unité pour les anciennes colonies devenues des nations membres du Commonwealth, avec des statuts très différents. Ces nations ont d'ailleurs intérêt à passer des accords de libre-échange économique. Écoutez la Jamaïcaine Patsy Robertson. Elle est née dans les années 40 dans la paroisse de Sainte-Élisabeth sur l'île de la Jamaïque. Elle est une enfant de l'Empire.
Jamaica was a colony. People forget that the empire began in the Caribbean.
La Jamaïque était une colonie. On oublie souvent que l'empire a commencé dans les Caraïbes. Les Britanniques sont arrivés en 1665.
I grew up on a farm in the hills above Kingston.
J'ai grandi dans une ferme sur les collines au-dessus de la capitale Kingston.
But I went to school in Kingston.
Mais je suis allée à l'école à Kingston, où chaque année nous célébrions le jour de l'empire pour l'anniversaire de la reine Victoria, le 24 mai.
The school put on a fair. There were concerts.
À l'école, il y avait une foire, des concerts. On chantait God Save the King à l'époque.
And that made Jamaicans a part of the whole British Empire.
C'était le symbole de notre place dans l'Empire, un lien avec le Royaume-Uni.
It was entertainment when you were young, and I really loved the Empire.
C'était très amusant pour nous les jeunes. J'adorais le jour de l'Empire.
After the Second World War, a lot of Caribbean people came to England.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Caribéens se sont engagés dans l'armée britannique. Nous avons aidé le Royaume-Uni à gagner la guerre. Mais après ça, le monde entier a changé. Dans tout l'Empire, les volontés d'indépendance ont émergé. Les jeunes Jamaïcains qui venaient étudier en Angleterre, et dont certains ont servi pendant la guerre, sont revenus au pays et ont créé des partis politiques. La transition n'a pas été trop difficile. Nous sommes devenus indépendants en 1962 avec notre propre hymne et notre propre drapeau. C'était une cérémonie gigantesque, avec des milliers de spectateurs. Et bien sûr, c'était retransmis à la télévision en Jamaïque. Je me souviens que c'était la princesse Margaret, la sœur de la reine, qui était à la cérémonie. Car un représentant de la famille royale était présent pour toutes les cérémonies d'indépendance. Nous avions d'ailleurs décidé de conserver la monarchie et de rester dans le Commonwealth, tout simplement parce que cela nous donnait accès à tout le reste de l'Empire. Je crois que la Jamaïque et les Jamaïcains ont toujours été capables de distinguer la famille royale comme clairement séparée du gouvernement britannique. La première visite de la reine Elisabeth II était en novembre 1953, juste après son couronnement. Et elle est revenue plusieurs fois en Jamaïque, chaque fois reçue avec grand enthousiasme. Les gens l'aiment
La voix de la Jamaïcaine Patsy Robertson dans La Marche du Monde. Elle évoque la décolonisation pacifique de son île des Caraïbes, mais comme en témoigne Lord Luce, ancien député, ancien ministre, ancien gouverneur de Gibraltar et chambellan de la reine de 2000 à 2006, la fin de l'Empire s'est aussi accompagnée de violences et il en témoigne lorsqu'il effectuait son service militaire à Chypre dans les années 50. Les aspirations nationalistes des anciennes colonies britanniques n'ont pas toujours été entendues. Bien au contraire.
I was sent to Cyprus as a young officer, aged 19.
J'ai été envoyé à Chypre, jeune officier à l'âge de 19 ans,
with a platoon, as we used to call it,
avec un peloton d'environ 30 hommes,
and it was a state of emergency.
Pendant la période d'état d'urgence.
There was the empire still going.
L'Empire existait toujours à cette époque. Et nous devions combattre un groupe terroriste qui voulait l'union avec la Grèce, mais les Turcs chypriotes, eux, évidemment, n'étaient pas d'accord. Donc nous luttions face aux problèmes liés à la fin de l'Empire. C'était très dur pour nous à notre âge. Nous savions à l'époque, j'avais conscience en tout cas, que la fin de l'Empire arrivait rapidement. Bien sûr, l'Inde avait déjà acquis l'indépendance, le Sri Lanka aussi, et nous savions que d'autres pays s'approchaient de l'indépendance rapidement. Dans ma jeunesse, j'ai vraiment vu les efforts que nous faisions pour assurer la transition en douceur de l'Empire au Commonwealth. Notre devoir était de traiter la population de la manière la plus décente et humaine possible, tout en maintenant l'ordre dans une période d'état d'urgence. C'est en tout cas mon point de vue d'ex-fonctionnaire colonial.
Lord Luce est un enthousiaste de l'Empire, où il a mené d'une main de maître sa longue carrière. Administrateur au Kenya de 1961 à 1963, au moment de l'indépendance, il estime avoir accompli une mission civilisatrice auprès des populations tribales.
J'avais 24 ans à mon arrivée. J'étais le numéro 2 d'un district de la taille de l'Irlande et nous dépendions de la bonne volonté de nos administrés, en l'occurrence des nomades et des agriculteurs. Il n'y avait pas d'animosité. Il était important que nous connaissions les noms des chefs de toutes les tribus, mais sinon c'était une histoire de consentement. S'il y avait eu de l'hostilité, deux officiers n'auraient jamais pu gérer une région aussi grande. C'est la réalité de l'Empire, le cœur de l'Empire. Le gouvernement a pu faire des erreurs depuis le Royaume-Uni, mais sur place, les administrateurs étaient dévoués aux populations qu'ils servaient. Et nous n'étions pas supérieurs. Nous leur avons apporté des choses positives, le chemin de fer, les routes, les écoles. Mais à partir du moment où il commençait à y avoir de l'agitation et que les populations voulaient leur indépendance, il fallait que nous partions le plus rapidement possible pour conserver de bonnes relations avec le pays. Surtout ne pas se battre et les forcer. Et bien sûr, c'était une opinion controversée. Beaucoup de politiques n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, nous en voyons les bénéfices. De manière générale, les relations avec les anciens pays de l'Empire sont bonnes. Et je crois que c'est pour cette raison que nous avons un Commonwealth aujourd'hui.
Pierre Singarevelu, j'aimerais que l'on revienne sur une dimension peut-être mythique de l'histoire de la décolonisation britannique. Est-ce qu'il n'y a pas un mythe très vivant de cette décolonisation britannique qui se serait passée en douceur ?
Oui, certainement. Il y a une vision hagiographique de la décolonisation britannique qui a prévalu très longtemps, y compris dans l'historiographie, qui avait tendance à opposer d'un côté une décolonisation violente, sanguinaire, la décolonisation française, marquée, il est vrai, par la guerre d'Algérie notamment, les guerres d'Indochine, et puis
le Cameroun,
et puis d'un autre côté, une décolonisation britannique qui aurait été pacifique, irénique. Alors quand on regarde les choses dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque certes, les Britanniques ont parfois anticipé la décolonisation en préparant, disons, des formes d'autonomisation de certaines colonies. C'est le cas en Inde avec un processus qui est initié avant la Seconde Guerre mondiale et puis que là, le conflit va retarder. Donc certes, il y a des évolutions négociées et préparées dans certains cas, mais ce qui n'empêche pas l'existence de violences, de fortes tensions, y compris en Inde, puisque évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement nationaliste indien est sévèrement réprimé, les leaders sont emprisonnés. Les mouvements de rébellion sont réprimés violemment. Et finalement, l'indépendance qui est accordée à l'Inde en 1947 va se traduire par la partition et donc la mort de centaines de milliers de personnes, hindous ou musulmans, précisément parce que cette décolonisation a été mal préparée et précisément parce que les Britanniques ont adopté une pratique coloniale partagé par l'ensemble des empires coloniaux, le fameux divide to rule, divisé pour régner, utilisé par les Français en Afrique, en Algérie par exemple, en opposant les Berbères, les Kabyles aux Arabes, hein, eh bien les Britanniques procèdent exactement de la même façon, en opposant hein, systématiquement, ou presque systématiquement, les musulmans aux hindous, et ça se traduit naturellement au moment de la partition. On retrouve ces mouvements de répression au Ghana, au Kenya, où la décolonisation a été particulièrement difficile. Et il faut préciser que cette décolonisation ne se termine pas dans les années 1960. Hein. Elle se prolonge jusqu'à la fin du XXe siècle. Il ne faut pas oublier que le Brunei acquiert son indépendance hein, en Asie du Sud-Est seulement en 1984, Hong Kong en 1997, le Vanuatu en 1990.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous revenons sur l'histoire de la décolonisation sous le règne d'Elisabeth II et on se demande ce qui reste aujourd'hui du passé impérial de la Grande-Bretagne. Une des réponses est certainement à trouver dans l'héritage multiculturel de la société britannique.
We are here at the South Bank. In London.
Nous sommes ici au South Bank Center de Londres.
A few weeks ago, at the start of October, there was a wonderful gala.
Il y a quelques semaines, début octobre, c'est ici qu'a eu lieu le fabuleux Independence Gala pour célébrer les relations qui unissent le Royaume-Uni et l'Inde, mais surtout pour commémorer les 70 ans de l'indépendance de l'Inde. Je crois bien qu'il y avait plus de 100 artistes, des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des acrobates.
For me, it was a very special experience.
Participer pour moi, c'était très spécial. C'était un retour aux sources.
This was a piece of improvisation.
Là, c'est moi qui improvisais, accompagné d'un instrument indien, le sarangi.
As I continue singing, you hear a lower voice come in.
Au bout d'un moment, on entend une voix plus basse. C'est la voix indienne de Dipaner Razia. Elle chantait, je crois, un chant sikh sacré.
My name is Patricia Rosario. I am an Indian opera singer.
Mon nom est Patricia Rosario. Je suis une cantatrice indienne. Je suis née à Bombay en 1955.
I lived in a little community in Santa Cruz West.
J'ai grandi dans une petite communauté à Santa Cruz West, un endroit très joli où toutes les maisons ressemblaient à des petits cottages anglais.
At home we were very westernized. We spoke English.
Ma famille était très occidentalisée. Nous parlions anglais, nous suivions la mode européenne, celle des années 60.
But I didn't feel British.
Mais je ne me sentais pas britannique, car j'étais en Inde et j'étais dans une école chrétienne avec des camarades de toutes les religions, hindous, musulmans. Nous ne sentions pas le poids du Royaume-Uni.
En fait, quand j'étais à l'école, we didn't sing the British national anthem. We were independent.
D'ailleurs, en classe, nous ne chantions pas le God Save the Queen. Nous étions indépendants. Nous chantions l'hymne national indien tous les matins.
Jana Gana Mana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha. That was the Indian national anthem.
C'était l'hymne indien.
So my parents loved music.
Mes parents adoraient la musique. C'était une source de plaisir et de détente. Mais nous n'écoutions jamais de la musique classique indienne, ni même Bollywood. Par contre, nous avons été sensibilisés à la musique occidentale très tôt.
My father was passionate about opera, but my mother would teach us songs from the musical.
Mon père avait une passion pour l'opéra et ma mère nous apprenait des chansons du musical, My Fair Lady, La Mélodie du Bonheur. En fait, je regrette de ne pas avoir écouté plus de musique classique indienne. Je sens bien aujourd'hui qu'il me manque les bases.
No, in 2001, I was awarded an OBE.
En 2001, la reine m'a accordé un OBE. J'appartiens à l'ordre de l'Empire britannique.
It's a very special recognition of what one has achieved.
C'est un titre qui reconnaît le travail accompli par une personne dans son domaine. Pour moi, c'était pour mes concerts, mes disques.
Anyway, I was invited on a particular day to go to the Buckingham Palace.
J'étais invitée à Buckingham Palace et j'étais tellement heureuse que ma mère puisse assister à la cérémonie, car c'était pendant l'été, donc elle était en Angleterre.
And on the back of that, the Indian government honored me by giving me an award, which is called the Pravasi Bharatiya Samman.
Et peu de temps après ça, le gouvernement indien m'a accordé un honneur qui est destiné aux Indiens qui ont quitté le pays, mais qui ont accompli de grandes choses. J'ai été très touchée.
Also having an OBE.
Ces deux honneurs n'ont rien de contradictoire pour moi.
It's the government of India recognizing that I am an Indian.
C'est l'Inde qui reconnaît que je suis indienne, mais aussi qui récompense mon travail, comme l'ordre de l'Empire britannique.
I don't feel offended by the use of the word empire.
Je ne suis pas du tout offensée par l'utilisation du mot empire, car l'OBE est un honneur très ancien.
It's just keeping a tradition alive.
C'est simplement conserver une tradition.
La voix de la cantatrice indienne, Patricia Rosario, dans La Marche du Monde. Pierre Singaravelu, qu'est-ce que ce témoignage évoque en vous, l'historien, par rapport à ce processus de la décolonisation britannique?
Alors, il est assez caractéristique des élites indiennes anglicisées, à la fois sous la colonisation et au lendemain de 1945, d'un certain nombre de bourgeois ou d'aristocrates indiens qui redécouvrent leur propre culture à travers, parfois, les yeux des Britanniques. C'est le cas du plus célèbre d'entre eux, Mohandas Karamchand Gandhi, qui part faire ses études à Londres en 1878, ses études de droit, et qui, à cette occasion, en Angleterre, eh bien, lit pour la première fois les grands textes religieux de l'hindouisme, les grands textes philosophiques. C'est en Angleterre qu'il découvre le végétarianisme. C'est à ce moment-là uniquement, ça n'est pas en Inde. Donc c'est intéressant comment ce détour par l'étranger, par la métropole impériale, peut susciter un retour vers ses propres origines.
Que reste-t-il au fond de la relation entre l'Empire britannique et ses sujets? Est-ce que la culture, c'est une forme de butin de guerre?
Oui, la culture, c'est un butin de guerre. C'est la belle expression de Kateb Yassine sur le français butin de guerre des décolonisés, notamment en Afrique, hein, au Maghreb et en Afrique subsaharienne, cette superbe formule. En l'occurrence, dans l'Empire britannique, évidemment, la langue anglaise constitue le meilleur ciment du Commonwealth avec la reine d'Angleterre Elisabeth II. On pourrait évoquer également le sport.
Du Commonwealth.
Alors les jeux du Commonwealth.
Nous, ça nous intrigue beaucoup, notamment Elliot Bourrel qui met en nom de cette émission. S'est toujours demandé, mais que font tous ces gens à participer à ces jeux? encore aujourd'hui.
Alors, il faut dire que le sport est véritablement l'autre grand ciment du Commonwealth et de ce monde britannique, puisque les grands sports dits modernes sont les sports codifiés par les Britanniques à partir de la fin du XVIIIe siècle avec le golf, et puis surtout le rugby, le football, le cricket.
Le cricket.
Auquel
jouent les Indiens, donc.
Exactement. Alors, souvenez-vous de la fameuse expression du psychanalyste célèbre Ashish Nandi, qui définit le cricket comme un sport indien accidentellement découvert par les Britanniques. C'est-à-dire un sport qui a été totalement approprié par les Indiens, qui en ont fait leur sport national, constitutif de leur identité nationale.
Pierre Singaravelu ne peut pas se quitter sans revenir aussi sur les dossiers qui fâchent entre l'Empire britannique et ses anciennes colonies, notamment les questions des exactions. Vous avez pu mentionner dans cette émission combien cette colonisation britannique, à la différence de son mythe, n'a pas été une partie de campagne. Il y a eu beaucoup de violence, notamment avec l'exemple de l'Inde, mais ce n'est pas le seul. Est-ce que la reine, qui a toujours chéri le Commonwealth et qui vieillit, aurait dû, devrait s'excuser pour les exactions commises justement par l'Empire britannique?
Alors c'est une question morale et politique à laquelle l'historien ne peut pas répondre directement. Ce qui est certain, c'est que cette question de l'héritage colonial pose encore problème en Grande-Bretagne aujourd'hui. Il suffit de se référer aux différentes interventions des premiers ministres successifs. Gordon Brown, en 2005, par exemple, affirme qu'il faut célébrer le passé colonial britannique. Boris Johnson, ancien maire de Londres et qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, écrivait en 2002 « L'Afrique est un gâchis. Le problème n'est pas que nous y avons été aux affaires, mais que nous n'y sommes plus. » Et c'est partagé par une grande partie de l'opinion public. Il y a un sondage de 2016 en Grande-Bretagne qui démontre que presque 50% des personnes interrogées en Grande-Bretagne se disent fiers du passé colonial britannique. Donc il y a toute une nostalgie impériale.
La mythologie est très forte.
La mythologie est très forte. Elle est entretenue par des séries télévisées. Par exemple, il y a une série qui s'intitule Indian Summers qui raconte la geste coloniale britannique en Inde et qui fonctionne très très bien en ce moment à la télévision britannique. Et on peut dire que le Brexit aujourd'hui, qui traduit une forme de repli nationaliste, va également encourager cette geste impériale.
Thank you so much, Pierre Singaravelu.
Merci à vous.
Queen Elizabeth de l'Empire au Commonwealth. C'était une marche du monde signée Valérie Nivelon avec Marie Billon, notre correspondante à Londres, auteure de tous les témoignages inédits que vous avez pu entendre dans cette émission, mise en onde par Elliot Bourrel, avec les archives de l'INA proposées par Laurence Sarniguet. Vous pouvez écouter la marche du monde à tout moment sur RFI.fr, nous écrire, réagir sur Facebook et bien sûr podcaster cette émission, c'est la vôtre.